Parlons Europe. En partenariat avec Madame Rivasi. Une émission financée par le groupe Les Verts ALE, Alliance Libre Européenne au Parlement européen.
Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur RDWA sur le 107.5 FM où vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions sur le podcast au www.rdwa.fr. En avril 2015, donc, nous avons fait une émission radio qui montrait l'éloignement géographique de l'Europe et du citoyen. Donc, nous avons contacté Michèle Rivasi, députée européenne, qui nous a dit « bien, allons-y, essayons de rapprocher le citoyen de l'Europe et produisons 6 émissions afin d'informer les citoyens sur la politique de l'Europe et de vraiment donner un petit peu de clairvoyance dans toutes les missions politiques de l'Europe ». Et c'est un cycle de 6 émissions, et voilà aujourd'hui, qui va porter donc sur la politique sociale de l'Europe, à la fois en matière d'emploi et de vie sociale, mais on pourra en profitera dans la deuxième partie de cette émission pour parler de la politique, notamment au niveau de cet aspect migratoire qui pose actuellement énormément de difficultés. Alors Michèle Rivasi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous avons aussi, pour nous accompagner tout au long de cette émission, Claude Verret.
Bonjour.
Vous présentez, Claude. Oui. Vous êtes investi dans différents collectifs, dont Écologie au quotidien, qui vient de se terminer il y a quelques jours.
Entre autres. Et aussi un réseau qui vient de naître, un réseau d'aide aux migrants et aux réfugiés dans le Diwa.
Dominique Alain, de la CIMAD, donc association ancienne déjà, qui... dont l'activité essentielle est d'apporter des informations, du conseil, de l'accompagnement pour des étrangers, notamment dans leurs relations avec le droit des étrangers.
Et nous aurons comme candidat à nouveau Gaël, qui est avec nous aujourd'hui pour poser les questions qui vont bien. Bonjour Gaël.
Bonjour à tous.
Alors Michèle Rivasi, la politique sociale en matière d'emploi et de vie sociale de l'Europe, est-ce qu'elle a véritablement un impact compte tenu du fait que chaque gouvernement a sa propre compétence? Il n'y a pas vraiment de compétence en matière sociale et d'emploi au niveau de l'Europe.
Y a quelques compétences, mais pas suffisamment, comme vous le dites, parce que l'Europe, elle s'est forgée sur des valeurs, mais surtout sur un marché unique. Mais progressivement, quand même, est venu ce problème d'une Europe sociale, de créer une Europe sociale. On l'a vu sur la formation, on l'a vu sur le retour de l'emploi, on le voit aussi sur la circulation des travailleurs, on le voit aussi sur la discrimination ou la non-discrimination. Vous voyez, à la Commission sociale, ils travaillent beaucoup sur l'équilibre entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. Et même, on peut le retrouver aussi sur les fonds structurels, parce que quand on parle du fonds social européen, qui alimente par exemple la région Rhône-Alpes de 316 millions d'euros, eh bien, cet argent va comment favoriser la formation, comment favoriser le retour à l'emploi, comment favoriser aussi le fait que les gens sont précaires. Et puis, il y a eu un nouveau fonds qui a été sur la formation des jeunes, parce que il y a 25 millions de chômeurs en Europe et la majorité, ce sont des jeunes. Et donc, il y a eu de l'argent mis pour que les jeunes aient absolument, grâce à cet argent européen, droit à l'apprentissage, à la formation, vous voyez, au retour à l'emploi le plus rapidement possible. Voilà. Mais je pense que c'est pas suffisant parce que, vous voyez, le business est bien beau, mais si on laisse le marché... équilibrer et faire en sorte à ce qu'il y ait une diminution des inégalités, ben vous voyez que c'est l'inverse. Il y a de plus en plus d'inégalités entre les gens. Et donc, ça veut dire qu'on n'insiste pas suffisamment. On laisse trop de la souveraineté des États et pas assez des garanties pour les travailleurs et des garanties pour, justement, à ce qu'on diminue la pauvreté sur le plan européen.
Alors dans cette lutte effectivement contre la pauvreté, on a vraiment une problématique en fait qui est effectivement d'essayer d'inciter en fait les gouvernements à essayer effectivement de se standardiser un petit peu sur cette politique sociale. Donc on essaie notamment au niveau de la sécurité sociale d'avoir des incitations. Il y a tout un ensemble de mesures qui sont prises. Concrètement, Claude Verret, sur le terrain, après justement cette vaste partie d'Écologie au quotidien qui était vraiment cette année avec un accent sur la transition. Est-ce que ce sont des choses qu'on ressent? Est-ce qu'il y a des frémissements sur les territoires?
C'est délicat. Des frémissements sur les territoires au niveau social, pas vraiment. Pourquoi ? Parce que finalement, on pourrait accuser l'Europe d'être la cause de tous nos maux sociaux. Je ne sais pas si aujourd'hui l'égalité, la justice sociale au Mexique ou en Égypte est mieux, alors qu'elles ne sont pas dans la communauté européenne, elles ne sont pas dans l'Union européenne. Donc je pense qu'il y a deux choses qui sont fondamentalement différentes. C'est le cheminement de notre civilisation ultralibérale qui fait des dégâts partout et qui fait que des gens sont extrêmement riches et d'autres extrêmement pauvres. Et est-ce que l'Europe facilite ça ? Alors c'est vrai, comme le disait Michel, l'Europe s'est basée d'abord sur le marché en pensant que le marché enclencherait du progrès et le progrès déclinerait de la justice sociale. Il s'avère que ce n'est pas tout à fait ce qui est dans les rouages de l'Union européenne. Est-ce qu'elle est plutôt un modérateur de l'ultralibéralisme ? On peut le voir comme ça. C'est vrai que l'Europe n'a pas de prérogatives ou de compétences au niveau social. C'est encore des États, hein, la subsidiarité, comme on dit. Et donc, il n'y a pas assez d'Europe pour imposer une réglementation sociale, pour moi. Et donc, c'est vrai qu'on en subit ces conséquences. Je ne mettrai pas toutes les inégalités de la responsabilité de l'Europe. Mais on en discutera plus profondément.
Alors, Michel Rivasi, au niveau de cette politique européenne, est-ce qu'on s'oriente plutôt vers une prise de position de plus en plus forte de l'Europe avec des incitations encore plus fortes, ou est-ce que plutôt on est en restriction, notamment budgétaire, parce qu'effectivement 316 millions d'euros, c'est très important pour la région Rhône-Alpes. Maintenant, on va passer sur une super région, donc on aura en plus des financements, ou alors en moins, parce que ça fonde partout.
Non, les financements européens vont rester et il y aura encore plus de financements sur tout ce qui est formation et tout ce qui est incitation à l'emploi.
Alors cependant, les fonds européens vont rester effectivement avec souvent une nécessité de contrepartie, c'est-à-dire qu'il faut avoir une contrepartie d'une collectivité territoriale très souvent pour pouvoir bénéficier des fonds de l'Europe.
Oui, mais là, c'est le Fonds social européen. Hein, c'est différent du FEDER hein, qui est sur les infrastructures. Par exemple, le Pôle emploi. Le Pôle emploi de la Drôme, eh ben, franchement, il est financé en majorité par les fonds européens. Vous voyez que la formation qui est diligentée par la région, alors donc maintenant, ce sera la région Rhône-Alpes-Auvergne, eh bien, la majorité vient de l'Europe. Et donc ça, c'est important. En même temps, moi, je sens, au niveau des députés européens, une volonté de plus d'Europe pour le social. Parce que si on n'arrive pas à montrer que l'Europe peut être protecteur sur le social... On le voit sur, par exemple, il y a une grosse volonté d'avoir un salaire minimum. Regardez, là, quand les Allemands ont été obligés, parce que personne, enfin, il y avait très peu de gens qui le savaient, qu'il n'y avait pas le SMIG. Et que, moi, je le vois très bien à la frontière quand on est à Strasbourg, eh bien, la plupart des députés allemands vont coucher en Allemagne parce qu'ils disent qu'il y a plus de gens dans les hôtels pour nous recevoir, etc. Oui, sauf que les jeunes, ils étaient payés 200, 300 euros. Il n'y a pas de SMIG. Et donc là, ça a été avec la coalition du parti de Mme Merkel et du SPD, qui sont les socialistes, l'équivalent des socialistes, que maintenant, il y a un SMIG qui a été instauré. Et ça, vous voyez bien qu'il faut plus d'Europe pour qu'il y ait un salaire minimum. S'il n'y a pas un salaire minimum dans chaque pays, eh bien là, ben, quand on parle de compétitivité, je n'aime pas ce terme de compétitivité parce que ça voudrait dire chaque fois que, vous voyez, pour avoir un produit pas cher, eh ben, c'est quoi ? On va jouer sur quoi ? On va jouer sur le salaire des gens. Mais on ne va pas s'aligner sur le salaire des Chinois ni ceux de l'Éthiopie. Enfin, c'est quand même incroyable. Et alors, là où souvent il y a quand même une législation sur le social, c'est tout ce qui touche aux travailleurs. Parce que les travailleurs, il faut que... Il y a eu des directives sur la santé au travail. Vous voyez, il faut que quand même ils soient dans des bonnes conditions. Il faut qu'ils aient un salaire, on l'a vu sur la directive sur les travailleurs détachés, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre, où à l'heure actuelle, on n'est pas satisfait parce qu'il y a quand même une discrimination entre des gens qui ont alors le salaire qui est aligné sur le SMIC, par exemple en France, mais les charges sociales sont sur le pays d'origine et pas le pays d'accueil. Et ça fait une discrimination. Donc on n'est pas arrivé, vous voyez, à une égalité là-dessus. Donc il faut vraiment booster l'Europe sociale. La sécurité sociale, c'est aussi un des paramètres. Alors on a fait une directive, par exemple, pour que n'importe quel travailleur, où qu'il soit, soit pris en charge dans le pays où il est, par, je dirais, la sécurité sociale du pays. Donc, vous voyez, tout ce qui touche au niveau des frontières, il y a l'Europe qui est impliquée. Par contre, quand c'est typiquement dans le pays en question, c'est de la responsabilité de l'État souverain.
Alors, Erwan, notre candidat, une première question.
Je vais un peu orienter sur un sujet que je connais, tout simplement, parce que je suis jeune, j'ai moins de 25 ans, et donc je suis confronté à une bonne... Enfin, j'ai été confronté à une bonne part des réalités des jeunes d'aujourd'hui, n'ayant pas spécialement de diplôme et d'accès au travail forcément facile, surtout dans une région comme le Diois. Je me suis rendu compte à force de temps qu'au final, on propose énormément de formations. On propose pas mal de contrats différents, de types de contrats différents pour des jeunes gens. Mais pour beaucoup, ces contrats-là ou ces formations-là ne sont pas diplômantes ou ne donnent pas forcément directement un accès au travail facile. Et ce que je me demande, en fait, tout simplement, la question qui me vient en tête, c'est concrètement, qu'est-ce qui est fait pour les jeunes gens de moins de 25 ans, moins de 25-26 ans, je ne sais plus exactement quel est le seuil, pour leur permettre d'avoir un retour à l'emploi stable ou d'avoir une formation qui leur permette de retourner dans un cursus qui leur va, sachant que la plupart du temps, ces formations-là ou contrats-là ne sont pas... ouverte à des droits derrière, comme par exemple le RSA ou le SMIC derrière.
Alors, si vous voulez, il y a deux choses. L'Europe a mis 6 milliards pour dire que tous les États membres doivent donner une formation aux jeunes. Bon. Après, chaque État le décline à sa façon. Et l'Europe, si vous voulez, elle doit à peu près contrôler si tous les jeunes comme vous ont droit à une formation. Alors maintenant... La nature de la formation, est-ce que cette formation va permettre de déboucher sur un diplôme, tout ça, c'est de la responsabilité des États. Vous voyez, ce n'est pas l'Europe qui va aller à la région pour voir si la formation est adaptée. C'est après de la responsabilité. Est-ce que vous sortez avec un diplôme? Et puis, est-ce qu'il y a de l'emploi à la clé? C'est pour ça qu'après, l'Europe va intervenir, vous voyez, d'un point de vue économique, pour pousser à ce qu'il y ait un développement d'emploi. Mais vous voyez que la France, là-dessus, elle est en déficit d'offres d'emploi par rapport à d'autres pays. Mais il faut voir aussi quels sont les autres pays. Moi, on me dit en Angleterre, tout le monde peut avoir un emploi, mais quel emploi? Il y a une précarité incroyable en Angleterre. Si jamais on vous vire du jour au lendemain, vous n'avez pas droit au chômage. Vous voyez, c'est après, il faut tout regarder. Il faut regarder vraiment la chaîne dans sa globalité. En Allemagne, bon, maintenant, il y a ce salaire minimum, mais avant, vous pouviez être embauché dans un hôtel, la restauration, et être payé 300 euros. Est-ce que vous allez vivre avec 300 euros? Donc, il y a après la responsabilité de l'État membre qui doit assurer des formations diplômantes pour les jeunes. Et puis après, il faut que vraiment il y ait des entreprises qui s'installent. Il faut aussi qu'il y ait une adéquation entre la formation et aussi le type d'emploi proposé dans la région. Parce que des fois, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'emplois, mais les jeunes ne veulent pas y aller. Il y a tout ça qu'il faut résoudre et c'est vraiment, c'est pas forcément là de la responsabilité de l'Europe.
Je reviens rapidement sur ce que vous disiez. Effectivement, il y a des différences entre chaque pays. Alors, je comprends bien que c'est plus de la responsabilité de l'État et non pas de l'Europe. Après, ce que je m'aperçois aussi, c'est que d'autre part, alors peut-être c'est un peu erroné maintenant parce que ce que je vais parler, c'est quelque chose que j'ai vécu moi, mais il y a presque 4 ans maintenant, donc peut-être que ça a évolué entre-temps. Mais les contrats dont j'ai pu... bénéficier à ces moments-là était pour le coup justement rémunéré à hauteur de tout juste 300 euros aussi. Et effectivement, même aujourd'hui en service civique, bon, je gagne déjà plus et j'arrive à vivre à peu près avec ça, mais concrètement, on doit approcher tout juste des 600 euros. Donc il faut dire quand même ce qui est. C'est vrai que pour des jeunes gens qui vivent chez leurs parents, qui n'ont pas forcément la possibilité d'être aidés à côté, c'est pas forcément évident de s'en sortir. Et comment est-ce que... Alors, je ne parle pas forcément qu'en France, je connais que le système français puisque j'ai vécu qu'en France, mais comment est-ce qu'en Europe, ce genre de choses sont gérées un petit peu à l'échelle européenne? Du coup, c'est... Comment c'est vu? Désolé, peut-être je ne suis pas très évident.
Non, mais au niveau de l'Europe, par exemple, vous parlez des jeunes. L'Europe assure la mobilité des jeunes. Hein, c'est tous les programmes Erasmus, Erasmus+, où elle contribue au financement. Maintenant, après... La région participe souvent. Vous voyez, Rhône-Alpes rajoutés, parce qu'ils se disaient, si vous touchez 300 euros, vous n'allez pas vivre avec 300 euros. Donc, vous voyez, rajoutés, je crois, alors je ne sais plus de mémoire, mais mettons 300 euros de plus pour que la personne elle puisse se loger, se nourrir et tout. Mais après, il y a aussi un parrainage, parce que si vous allez travailler en Allemagne ou en Autriche, etc., le fait de vous recevoir, le fait de faire de la formation, il y a le pays aussi qui prend en charge un certain nombre de choses. Donc l'Europe, elle est pour la mobilité des travailleurs, la mobilité de l'apprentissage. Elle dit, plus les jeunes vont changer de pays, plus ils vont apprendre la langue, même ils vont faire des petits. Il y a 1 million de petits dus à Erasmus, par exemple. Hein. C'est ça qui construit l'Europe. C'est ça qui... Et puis moi, je le vois au niveau des jeunes, par exemple, même dans des quartiers difficiles, ils sont toujours là en train de se plaindre, etc. Le fait de porter un projet et d'aller ailleurs, quand ils reviennent, ils sont différents. Vous voyez, la construction, elle se fait avec les autres. Ça, l'Europe a une très grosse responsabilité et met énormément d'argent là-dessus. Maintenant, l'histoire du salaire en tant que tel, est-ce qu'il y a des régions, vous voyez, qui aident plus ou pas ? Ça, c'est très la compétence des régions. La volonté de voir ces jeunes revenir avec une valeur ajoutée parce qu'ils sont partis 1 an ou 2 ans. Moi, mes enfants, ils sont partis grâce à Erasmus. Ils sont allés en Espagne pour faire une formation médicale, etc. Et c'est vrai que quand elles sont revenues, eh ben, je trouvais qu'elles s'étaient enrichies par l'échange de culture. Et moi, je trouve que c'est vous qui faites cette Europe, en fait. Et voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait donner beaucoup plus ? Certainement. Et je trouve qu'on est en train de sacrifier, moi ça me fait mal au cœur, de voir qu'il y a des tas de jeunes à l'heure actuelle qui n'ont aucune formation. Vous voyez ? Et que lorsqu'ils vont à certaines formations, eh ben, ce n'est pas du tout branché. Nous, on est vraiment pour développer, par exemple, des emplois verts. Vous voyez, entre un jeune qui fait un apprentissage de plombier ou d'électricien, bon, classique. Et un jeune où on lui dit, ben, tu vois, tu peux faire plombier, mais tu vas développer les énergies renouvelables. Tu vas avoir une qualification supplémentaire. Tu vas être maçon, mais tu vas être maçon pour faire des nouveaux bâtiments à énergie positive, hyper isolés. Et ça, ça demande vraiment une professionnalisation. Eh ben, je trouve que ça rentre dans des cadres complètement différents. Et il faut qu'on valorise, vous voyez, ces emplois verts, parce que c'est vraiment, pour moi, l'avenir. Ça demande une professionnalisation et il faut que les régions boostent là-dessus. Et Rhône-Alpes, là-dessus, elle était pas mal placée parce que, d'abord, il y avait beaucoup d'écolos qui étaient à la région et qui voulaient qu'il y ait des formations qui soient adaptées à la demande. Et après, ben, il faut qu'il y ait des entreprises. Et puis, il faut qu'il y ait des crédits d'impôt pour que les particuliers, les collectivités territoriales disent... Eh bien, voyez, il y a la COP21, eh ben, il faut aller là-dedans. Donc, c'est toute une dynamique qu'il faut créer. Vous voyez, l'Europe est un maillon, hein, mais après, c'est un peu la dynamique du pays qui fait qu'il y a un espoir ou pas.
Alors, on l'a constaté effectivement au travers de tout ce que vous expliquez, il y a une véritable incitation de l'Europe, notamment qui met l'accent quand même sur 6 dossiers un peu particuliers, la facilitation du passage de l'école au travail, qui est vraiment un des premiers axes, la facilitation aussi de la recherche d'un emploi, la facilitation de la mobilité des travailleurs dans l'Union européenne, que vous avez très bien rappelé, la modernisation, au tout début, vous rappeliez aussi, des systèmes de sécurité sociale, là aussi, 2 autres actions, la réduction de la pauvreté et la protection des personnes handicapées. Quand je vois ces 6 points et que je vois effectivement tous les efforts que met l'Europe sur ces thématiques, comment se fait-il qu'on ait toujours autant de personnes handicapées qui soient dans la précarité, qu'on ait toujours autant de pauvreté, qu'il soit toujours aussi difficile de trouver un emploi et que quand on sort de l'école, on ne sait pas trop ce qu'on va faire ?
Ça, c'est les intentions que vous avez citées. Maintenant, c'est comment c'est décliné dans chaque État. Et c'est vrai que la France, par exemple, sur l'intégration des personnes handicapées, c'est une catastrophe, quoi. Quand vous êtes handicapé, que vous cherchez un boulot, moi je vois les ESAT, ben, ils sont complètement pleins. Quand vous voulez intégrer une personne handicapée, on vous dit mais il y a une queue de 2 ans. Donc ça après, vous voyez bien qu'il y a les intentions et puis il y a la réalité. Regardez les bâtiments publics, l'accès aux handicapés, il faut combien d'années pour que ça soit efficace, alors qu'il y a des fonds européens pour aider. Mais c'est la priorité du pays, quoi. Est-ce que c'est prioritaire ou pas ? Est-ce que les gens sont dans cette dynamique ? Quand on dit le passage de l'école au travail, c'est... bon, d'accord. Mais après, comment ça se décline ? Et ça, après, il faut mettre en place les structures et puis les gens compétents et puis travailler avec, justement, les gens qui sont au chômage et qui veulent vraiment trouver un emploi, il faut les accompagner. Et puis, il faut qu'il y ait de l'offre aussi. Regardez, dans certaines régions, il y a énormément d'entreprises qui ferment. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment aussi parce qu'elles se délocalisent. Écoutez, on est à Valence, là. Regardez l'épisode Reynolds. Moi, écoutez, je les ai aidés. Et quand je voyais que c'est une entreprise qui faisait des bénéfices, mais pas suffisamment pour les actionnaires, et qui préférait se délocaliser, comment, moi, les bras m'en tombent. Parce que là, vous voyez bien que ce libéralisme forcené fait qu'on encourage les bénéfices parce qu'il faut que ça soit au-delà de 5% et plus, etc. Et qui c'est qui fait les frais ? Ben, c'est les salariés. Et après, alors, quel emploi vous allez trouver ? Alors, on veut développer aussi l'agriculture, parce que si c'est le modèle de l'agriculture intensive, eh ben, c'est la mécanisation à outrance. Eh ben, c'est encore moins d'emplois. Si c'est le bio, ben, y a beaucoup plus d'emplois à la clé. Donc, c'est bien un modèle de société qu'il faut changer. Et pour ça, je trouve que l'Europe, elle est quand même trop aussi... alors ça, c'est des belles intentions. Et puis, en même temps, elle bloque pas assez la délocalisation. Elle bloque pas assez aussi le fait qu'il n'y a pas assez d'argent public parce que les grosses entreprises ne payent pas assez d'impôts. Enfin, regardez les scandales en ce moment sur Google, Amazon, IKEA. Moi, je vois ma collègue Eva Joly, elle n'arrête pas d'attaquer pour dire... Mais enfin, c'est complètement anormal que ces gens-là payent que 3% d'impôts alors que les entreprises en payent plus de 30%. Enfin, c'est tout ce système qui fait que ça dérégule et... À qui profite le crime ? Aux entreprises, vous voyez, qui peuvent se délocaliser. Les PME qui jouent le jeu, et les petites et moyennes entreprises, parce que c'est vraiment un ancrage local, eh ben, elles sont pénalisées parce qu'elles banquent. Hein. Après, eh ben, vous avez aussi les particuliers, les salariés qui sont au chômage du jour au lendemain. Et c'est la collectivité qui paye, quand même. Et il ne faut pas remettre en question, en France, quand même, le système d'aide... Vous voyez, aux chômeurs, parce que si ça n'avait pas ça, mais ça serait pire que tout. Donc, voilà, ça, c'est les intentions. Et après, comment c'est décliné par le pays ? Quelles sont les priorités que le pays veut faire ? Ben voilà, c'est tout le dilemme qu'il y a par rapport aux intentions.
Alors justement, Claude, quand on voit toutes les difficultés que les gouvernements ont à mettre en place des actions véritablement concrètes, est-ce que la solution ne vient pas de la société civile ?
En définitive, on est toujours dans cette dualité. Est-ce que ça va venir d'en haut ou est-ce que ça va venir d'en bas ? On l'a vu très bien dans la COP, par rapport à la COP 21 et les rencontres autour du climat. On attendait tout de 195 chefs d'État qui allaient décider de grandes mutations environnementales, de transition écologique. En réalité, je pense que c'est intéressant qu'il y ait des choix qui soient faits au niveau international et au niveau national sur ces grands sujets, ne serait-ce que pour impacter notre imaginaire, pour changer un peu notre vision. Je pense que toute la presse en a parlé et que même les gens qui sont le plus loin de la démarche de percevoir ce dérèglement climatique en ont entendu parler. Déjà, c'est un point positif. Par contre... C'est une opinion plus personnelle. Je pense que la déclinaison de toute cette transition écologique, cette transition énergétique, se fera sur les territoires. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'aujourd'hui, les cartes sont plutôt dans les mains de la société civile, du monde de l'entreprise et du monde associatif pour faire rentrer ça dans notre quotidien, dans nos façons de vivre au quotidien tous les jours. Après, par exemple, vous parliez il y a quelques secondes de la formation professionnelle. Et là, je fais sous l'autorité de Michel, il y avait un travail formidable qui avait été fait, qui avait été pensé et même qui avait été projeté dans les transformations de société. C'était l'idée de la formation toute la vie. Et je trouve que ça, c'est génial parce que nous-mêmes qui sommes à la charnière de cette transformation du travail, cette vision d'apprendre toute sa vie et de formation toute sa vie, pour nous, c'est une chance inouïe. Et aujourd'hui, où on a peu de chances de rester 40 ans dans la même entreprise ou dans le même bureau, je trouve que c'est vraiment plus que formateur, c'est cette ouverture d'esprit et aussi, peut-être à certains moments, réorienter nos choix. Donc ça, ce sont des choix personnels à un certain moment. Quand on dit qu'il faut revenir à la société civile, nous sommes aussi nos propres agents de mutation. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas compter que sur l'Europe qui met en place des outils qui sont intéressants. En matière de travail aussi, moi, j'ai une notion du travail qui est un peu différente. Je pense plus que le travail soit le béaba d'une vie sur Terre. Alors c'est une opinion aussi personnelle, mais je pense qu'aujourd'hui on peut avoir quantité d'activités, on peut s'investir le lundi dans un centre social, le mardi dans une association pour les migrants, le mercredi aller travailler dans l'entreprise du coin qui fait des plantes aromatiques, et le jeudi aller faire des films en montagne qu'on va mettre sur, qu'on va construire avec des copains et où on va gagner aussi 4 sous. Donc je pense que le travail est plus est à repenser aussi. Et donc, je pense que les formations qui sont distillées par l'Europe via les régions et qui arrivent sur les territoires, je pense au financement du CFPPA de Die, je pense au Greta Viva 5 de Die, sont des financements qui doivent être orientés sur ces mutations du travail. Et je pense que Michel l'a très, très bien dit tout à l'heure. Par exemple, quand le CFPPA de Die finance des formations pour des bergers ou des agriculteurs bio, elle a bien pris au vol les mutations de ce territoire, et elle ne fait pas des formations à l'agro-business pour faire des plantes du maïs dans la vallée du Rhône. Quand le Greta Viva 5 fait des formations, organise des formations sur les bâtiments en transition énergétique, sur bioclimatique, sur les nouveaux métiers du bâtiment, c'est vraiment une autre vision du monde, mais c'est une autre vision de son métier. Quand 6 d'entre vous, quelques-uns, ont posé des moellons toute leur vie à faire tourner des bétonnières, c'est d'un triste et c'est d'une vision du monde attristante. Par contre, si vous arrivez à concevoir de nouveaux bâtiments bioclimatiques, bien orientés, où rentrera le soleil, vous accumulerez la chaleur, où vous ferez moins de dépenses énergétiques et que vous revoyez complètement la notion de l'habitat, c'est un métier formidable. C'est comme le métier d'agriculteur. Si vous passez votre temps à changer de siège de tracteur toute la journée, à sentir le gasoil en rentrant chez vous, vous avez perdu une partie de votre vision du monde agricole. Par contre, si vous vous sentez comme un biologiste qui doit réinventer son métier, qui doit réapprendre l'usage des plantes, les associations, la biodiversité qui va compléter son champ plutôt que le Roundup, l'agriculteur retrouve son côté chercheur et son côté de pays, de vivre sur un territoire. Et je trouve qu'on est dans une mutation de ces métiers où on va prendre plaisir à faire les choses. On va être tous des chercheurs en la matière. Et maintenant, ce sera à l'Europe à accompagner ces nouvelles façons de voir des choses qui ne seront plus le travail tel qu'on l'a imaginé pendant 70 ou 80 ans.
Il faut que la formation aide aussi à la mutation de la personne, puisqu'un boulot, vous n'allez pas le faire 40 ans, regardez le nombre de boîtes qui ferment, etc. Donc vous êtes obligé d'inculquer à la personne de comment s'adapter rapidement, comment trouver l'information. Donc on est sur une pédagogie qui est plus de rechercher l'information, de vous donner les outils pour rechercher l'information, plutôt que d'être que réceptif à une information donnée. Et donc, moi, je trouve que les formations, elles sont plutôt là-dessus maintenant. Et puis, il faut la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire que vous avez un boulot, ben, vous pouvez aussi avoir une autre formation. Mais moi, quand je vois le parcours de ma vie, moi, j'étais prof, puis après, je me suis lancé, vous voyez, dans une ONG, puis après, j'ai fait de la politique, et puis, dans la politique, vous abordez plein de sujets différents. Donc, c'est une adaptation permanente. Et c'est ça qui fait la richesse aussi, parce que adaptation permanente veut dire rencontre de gens très différents et ouverture sur la vie. Et en même temps, ce modèle-là, et de plus en plus, il y a des gens qui sont sur l'idée d'avoir un revenu minimum, voyez, que tout le monde ait un revenu minimum. Alors, bien sûr, en fonction du pays, du PIB, du pays, etc. Et puis, là, après, soit la personne veut travailler et a un supplément en fonction des activités qu'elle aime, ou l'autre personne peut vivre différemment avec des gens avec qui elle partage, etc. Mais cette notion du travail payé comme c'est à l'heure actuelle, moi, je crois qu'on arrive au bout d'un système. Vous voyez qu'à un moment, en 97, quand Martine Aubry avait dit 35 heures pour partager le travail. Maintenant, regardez, on est en 2016 et on n'est plus du tout là-dessus. Or, c'est vrai qu'il faudrait travailler moins, mais il faudrait quand même que les gens aient un revenu minimum sur lequel ils puissent vivre. Mais souvent, on dit population assistée, population travailleuse, vous voyez, la personne qui se lève à 8 heures du matin. Mais il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde avec ce vieux système. Donc, soit on responsabilise les gens en disant, ben, vous aurez un revenu minimum qui vous permettra quand même de vivre. Et puis après, à vous, si vous travaillez dans une association pour des personnes handicapées ou pour... pourquoi il ne serait pas rémunéré, ce travail-là? Vous voyez, je pense qu'il faut complètement qu'on change qu'on pense plutôt activité que travail classique.
Alors, je crois que vous avez bien résumé effectivement la situation avec une bonne vue d'ensemble. Il me semble quand même que cette volonté, là, les six actions que je citais tout à l'heure, elles ont été mises en place par l'Union européenne en termes de politique sociale, mais aussi pour contrer en fait le vieillissement de notre population et permettre vraiment de se donner les moyens. Alors, on a un vieillissement de population, on a un taux de chômage qui est croissant dans la plupart des États de l'Union européenne, on a des jeunes qui sont en mal de formation, hein. On voit qu'il y a aussi énormément de métiers qui sont en tension, sur lesquels on a des difficultés à trouver de la main-d'œuvre qualifiée en tout cas. Et en même temps, on a des migrants qui arrivent sur nos territoires et qui déferlent et qui, quelque part, viennent gêner, en fait, le concept même d'espace Schengen, puisqu'on voit que la réaction de certains pays est de fermer les frontières. Donc, concrètement, qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'Europe ? Il se passe quoi ?
Alors, attendez, là, on vit quand même une étape qu'on n'avait pas vécue de cette façon aussi importante qu'avant. Il y a toujours eu des migrations. Et l'Europe reposait sur la liberté de circulation des biens, des marchandises et des hommes. D'où l'idée de Schengen, libre circulation des personnes, avec les frontières. Vous voyez, parce que quand même, l'Europe se protégeait au niveau de ses frontières extérieures. Là-dessus, guerre en Irak, guerre en Libye, guerre en Syrie. Et pendant un certain temps, les gens restaient quand même dans ce pays, même si c'était difficile. Et puis c'est devenu tellement terrible qu'il y a eu un phénomène de migratoire énorme. Et on voit bien que les frontières extérieures, que ce soit en Italie, que ce soit en Grèce, ont été complètement dépassées. Et puis les autres pays, dans la mesure où ils n'étaient pas aux frontières, laissaient faire. Puis à un moment, ça a explosé. Et puis alors là, on a eu des politiques très différentes d'un État à l'autre, alors qu'on devait... C'était quand même... Alors, il y a eu tout ce débat de réfugiés de guerre, hein, et puis de migrants économiques, hein, comme si on allait distinguer, que c'était facile à distinguer, vous voyez, les gens du Soudan, est-ce qu'ils sont migrants économiques ou ils sont migrants dus à l'instabilité de leur pays. Et il y a Juncker, qui est le président de la Commission, qui a commencé à dire... C'est pas possible de rester comme ça. Il faut qu'il y ait une répartition équitable. Ça, c'est venu de la Commission. Et là, les députés européens ont fait passer une résolution pour dire qu'il faut une répartition équitable. Donc c'est partagé par les parlementaires européens. Mais qui a bloqué ? Les États membres. Les États membres. Quand on a vu la Hongrie, quand on a vu la Pologne, quand on a vu même au début l'Autriche, etc., ils ont dit « pas question ». Et puis on a commencé à avoir « oui, mais nous, on est d'accord pour accueillir des réfugiés, mais s'ils sont chrétiens ». Et pas musulmans. Ça, c'était les Hongrois et les Polonais. Et une qui est sortie du lot, c'est Mme Merkel, qui a dit, ben non, ben moi, j'ai besoin de migrants. Et on a vu Hollande complètement coincé, parce qu'il a dit, mais moi, j'en accepte que 24 000. Mme Merkel, 24 000, c'était un week-end qu'elle les acceptait. Et à l'heure actuelle, c'est terrible ce qui se passe, parce qu'on voit qu'il y a une déconstruction européenne, non pas là, alors... par rapport à la Commission, parce que Juncker a tapé le poing sur la table en disant « Mais si on ne joue pas la solidarité, on ne peut pas s'en sortir. Ce sont des gens qui reviendront dans le pays si, d'un point de vue diplomatique, on arrive à arrêter cette guerre en Syrie. » Alors il joue après sur la Turquie, en disant « On vous donnera 3 milliards, mais surtout M. Erdogan, qui est responsable au niveau de la Turquie, eh ben, bloquez les réfugiés qui viennent de la Syrie. » quoi. Donc, moi, ça me... Si vous voulez, ça me fait froid dans le dos parce que je sens des députés européens qui sont pour jouer la solidarité et je sens des États membres qui, par crainte de perdre le pouvoir, parce que bien sûr qu'il y a une montée du Front National, bien sûr qu'il y a une montée, si vous voulez, des mouvements extrêmes, très instrumentalisés d'ailleurs, hein, parce qu'on peut se poser le problème en Cologne, voyez, avec ce qui s'est passé à Douelle, tout d'un coup ça sort, on se demande qui, pourquoi, et puis en même temps plein de manifs d'extrême droite. Et je me dis que si on ne réussit pas là, eh bien, il n'y a plus de liberté de circulation. Hein, et puis, sous couvert du chômage, on est en train de créer les étrangers, les méchants, hein, qui vont nous prendre le travail. Ça, c'est une première chose. Et maintenant, avec les attentats, les étrangers, les terroristes. Et c'est terrible comme quoi les médias, comme quoi certains pays jouent ce drapeau-là, alors qu'il faudrait jouer la coopération et la solidarité. Voilà, se joue en ce moment hein, le futur de l'Europe. Soit les États membres, et moi je regrette que Hollande ne soit pas plus présent, ils jouent aux abonnés absents, vous voyez, ils jouent, ah là là, il y a la montée du Front National, mais attendez là, il faut aussi mettre les médias devant leurs responsabilités. Ce qui se passe là, ça s'est passé avant, on les a bien acceptés, les Juifs, à un moment donné, on les a bien acceptés, les Italiens qui avaient fui Mussolini, on les a bien acceptés, les Espagnols qui ont fui Franco. Et là, parce que c'est des Syriens ou des Irakiens, on dit pas question. Donc vous voyez bien qu'il y a une instrumentalisation de cet accueil de réfugiés. Et ce qui se passe à Calais, c'est vraiment un truc mais inadmissible. On est dans un pays civilisé, on est capable quand même d'accueillir ces gens sainement. Et tous ces enfants-là qui sont absolument pas acceptés, mis à l'abri, toutes les femmes avec tous ces viols qui se créent dans ces... Je trouve, mais vraiment, il y a, si vous voulez, on recule en arrière. On dirait que nos valeurs de solidarité, ce qu'on a connu dans notre histoire, n'existe plus. Et vraiment, c'est honteux. À la fois de la France, par rapport à sa cœur, et de l'Angleterre. Parce que l'Angleterre porte aussi une responsabilité. Et je trouve que, vous voyez que là, la déconstruction de l'Europe, elle ne vient pas pour une fois des institutions européennes, elle vient des États membres.
Alors effectivement, vous dites c'est honteux. J'ajouterais c'est aussi inquiétant parce que entendre une députée européenne qui me dit comme ça que l'avenir de l'Europe se joue en ce moment, ça fait froid dans le dos quand même. Sur le terrain, comment ça se passe, Dominique Alain ?
Alors moi, je voudrais quand même rebondir sur les propos de Michel parce que effectivement, dans le domaine des migrations. C'est là que l'Europe risque malheureusement d'éclater. L'Europe s'est construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur des valeurs. Et s'il y a bien un domaine dans lequel on abandonne à l'heure actuelle nos valeurs, c'est bien sur l'accueil des étrangers. Hein. Et sur les fantasmes contre lesquels les préjugés, les idées préconçues sur qui traversent les sociétés. Et ce qu'on déplore, c'est que ni les hommes politiques, ni les médias n'ont une fonction pédagogique ou idéologique pour essayer de faire comprendre aux populations, à nos concitoyens, que la plupart des... sur la façon de poser les problèmes de migration, on est complètement à l'envers de la situation réelle, des problématiques réelles. On laisse gagner dans l'opinion publique des fantasmes sur lesquels on construit une politique et tout, avec un gaspillage d'argent, un gaspillage humain épouvantable. Et donc on abandonne nos valeurs et c'est un risque énorme de déconstruction de l'Europe. Alors plein d'exemples. Alors, sur la construction de l'Europe, dans une association comme la CIMAD qui a été créée en 1939, l'Europe, c'était la Convention européenne des droits de l'homme. Bon, même si ce n'est pas une institution qui est à proprement parler juridiquement à l'intérieur du cadre européen, Union européenne. Dans le cadre de cette Convention européenne des droits de l'homme, il y avait quand même une incitation qui a existé pour que les États membres, les États européens, pardon, puissent faire progresser leur législation et les conditions d'accueil des étrangers. Et ça a été vrai jusqu'à un certain point. Il y a aussi, alors, si on revient dans les institutions européennes, l'Europe ne régente pas la totalité, évidemment, comme dans aucun domaine, des questions migratoires, mais il y a quelques grands textes, par exemple. Il y a un règlement européen sur les réfugiés, les demandes d'asile, et c'est ce que l'on appelle le règlement Dublin. Donc, en tant que règlement, il s'impose aux États directement. Hein. Ce n'est pas une directive, c'est un règlement. Et ça, c'est une construction européenne. Et cette construction européenne ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a que 17% des personnes qui sont malheureusement passibles de cette législation qui, en fait, ne sont pas réexpédiées, excusez le terme, dans le pays européen qu'ils ont touché en premier pour demander l'asile. Donc, c'est une politique européenne, là, cette fois-ci, et elle est totalement... Alors, sur le plan humain, elle est détestable, parce qu'elle conditionne l'accueil des demandeurs d'asile à des questions géographiques. Donc, on est en Italie, on est en Grèce, mais pourquoi ne demanderait-on pas spontanément l'asile en Suède, en Allemagne, en Lituanie, etc., etc. Bon, donc, des politiques européennes qui s'imposent, mais qui sont un gaspillage humain et d'une inefficacité réelle considérable. Michel évoquait les accords de relocalisation des migrants à l'heure actuelle. Juncker, là, il avait dit 160 000 personnes devraient être relocalisées dans d'autres pays. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et il y a un manque de solidarité des pays du Nord par rapport à la Grèce et à l'Italie. Et quand on parle d'éclatement probable de l'espace Schengen, qui était dans son principe quand même un acquis considérable et un facteur de paix, d'échange, etc. Hein, bon, cette libre circulation. Eh bien, malheureusement, on est en train d'étudier la façon de faire sortir la Grèce de Schengen, alors que dans les traités, aucune disposition ne permet, c'est ce qui d'ailleurs embête bien des gens qui ont cette arrière-pensée, aucun élément ne permet de faire sortir un pays de Schengen. Sauf que, évidemment, en plus là, je fais un peu de politique, mais qu'est-ce que vous voulez, on pressure sur le plan économique la Grèce et après on lui reproche de ne pas avoir les moyens de surveiller correctement sa frontière. Mais quand on baisse les salaires des gardes-frontières, bon... C'est pas que je sois pour une amélioration de la protection extérieure des frontières qui n'a jamais empêché personne de passer, qui a surtout comme conséquence, depuis l'an 2000, de faire 20 000 morts en Méditerranée, ce qui est quand même tout à fait effroyable, ce qui est quand même la négation des valeurs de l'Europe, des valeurs sur lesquelles l'Europe s'est construite, quand même. C'est épouvantable. Et voilà, c'est la notion d'Europe forteresse, construite sur des a priori idéologiques qui sont infondés. Regardez comment les hommes politiques, les médias n'ont pas joué leur rôle dans l'évolution des mentalités et de l'éducation de nos concitoyens sur ces questions-là. En 1984, au Parlement français, on a voté l'attribution de plein droit d'une carte de 10 ans pour les personnes qui étaient en France étrangères. Et ça a été voté en 1984 à l'unanimité des députés, droite comme gauche. À l'heure actuelle, la prochaine loi qui est en fin de discussion au Parlement français sur le droit des étrangers, ça serait dans certaines conditions, pour certaines catégories de personnes, l'attribution d'une carte de 4 ans, mais toujours à l'appréciation du préfet. Et en contrepartie de quoi, on est en train d'affaiblir notre état de droit parce que le préfet se voit attribuer en contrepartie la possibilité à tout moment d'enlever cette carte, ce qui est quand même... et se voit attribuer la possibilité de lever les secrets professionnels, y compris le secret médical, pour aller interroger la caisse primaire d'assurance maladie, par exemple, et ce sera un délit pour les salariés de cette caisse primaire d'assurance maladie de ne pas répondre. Et on va voir si, effectivement, un tel est malade, si, effectivement, il est au chômage. On questionnera Pôle emploi, on questionnera les banques pour savoir s'ils n'ont pas des revenus, etc., etc. Voilà. Et donc... Je rejoins ce que disait Michel sur la déconstruction de l'Europe. C'est certainement la frilosité et le repli sur eux-mêmes des États qui vont vraiment tuer l'Europe, quoi.
Merci pour toutes ces précisions. Effectivement, il y a une réglementation européenne, Michel, on voit qu'elle n'est pas respectée. Il y a des valeurs qui ont fondé l'Europe, on voit qu'elles sont bafouées ou en tout cas malmenées ou plutôt plus tout à fait partagée entre les différents États membres. Que se passe-t-il au sein de l'Europe? Est-ce qu'on est victime de ces actions de montée de terrorisme qui ont secoué et ébranlé un petit peu différents pays? Est-ce que c'est la crainte des migrants économiques plutôt que des réfugiés? Est-ce que c'est la crainte des deux? Est-ce que c'est simplement la peur de l'autre? Que se passe-t-il concrètement? C'est l'opinion publique qui oblige les États membres comme ça à reculer, ou on voit que la cote d'Angela Merkel a baissé terriblement?
C'est le manque de courage politique de nos élus et des médias.
Moi, je pense que ce sont les élections d'abord qui ont donné l'alerte. Les élections ont montré que dans tous les pays européens, hein, c'est pas typique de la France, il y a eu une montée des extrêmes. Bon, mais ça a été après alimenté par plusieurs paramètres. D'abord, l'histoire du chômage, 25 millions de chômeurs. C'est-à-dire que les citoyens européens étaient sur l'idée que l'Europe allait amener la prospérité, que l'Europe allait amener une valeur ajoutée, qu'au début, l'Europe a apporté d'ailleurs. Hein, vous voyez, la libre circulation des biens, des personnes, ça a augmenté le PIB de chaque pays. Regardez dans quelle situation était l'Espagne à un moment, le Portugal, la Grèce. Vous voyez, les fonds européens ont fait qu'il y a eu une remontée du niveau économique de ces pays-là. Mais la politique d'austérité, parce que s'il y en a une qui est responsable, la politique d'austérité qui a été employée après la crise de 2008, ça a fait un nivellement et ça a fait une stabilisation, si vous voulez, du développement qui a fait qu'il y a de plus en plus de chômage. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas... En même temps, ils étaient quand même sur un principe d'une croissance infinie. Et puis on s'aperçoit que bon, les gens vont pas continuer à consommer de façon outrancière comme ça l'est à l'heure actuelle. Après, il y a eu ce problème de guerre. Vous comprenez que quand les Français et les autres pays ont vu ces images, vous avez des flots de gens avec leurs familles, vous voyez, qui déboulent en Hongrie, qui déboulent en Pologne, où on voyait ces fils de fer barbelés, où on voit... ça a fait peur aux gens. Et puis les attentats. Vous voyez, tout ça, ça a fait que c'est très facile de surfer sur la peur. En fait, c'est la peur qui fait qu'il y a eu les politiques après employées. Et quand je vous dis que j'ai très peur de ça, c'est qu'il y a un manque de volonté de nos chefs d'État et de gouvernement. Il y a qu'Angela Merkel qu'on laisse toute seule. Là, il y a les Suédois quand même qui ont joué le jeu quand même de l'accueil des migrants. Mais en ce moment, en Suède, il y a eu des mouvements d'extrême droite qui ont fait que... vous voyez, ils se disent, mais on a ouvert nos frontières pour, après, nous faire démonter dans le cadre du fait qu'ils avaient le pouvoir à une époque donnée. Donc, moi, je pense que là où Juncker a joué le jeu en disant, il y a 160 000 personnes à se partager équitablement, il fallait que les chefs d'État disent, eh ben voilà, on joue ce jeu-là. Et puis même, je vais vous dire, ces réfugiés vont nous apporter une valeur ajoutée. Il y a eu quand même des voix qui ont montré que c'était des gens qui avaient des compétences. Il fallait leur apprendre la langue dans le pays. Et puis, je trouve qu'on est en carence d'imagination. Moi, je me dis, regardez les gens de Calais. On est en train de se dire, bon, mais il faut les répartir dans la Drôme, l'Ardèche, etc. Mais on les met à l'écart. On les met comme si c'était des gens exclus, discriminés.
En dehors de la
cité. Ils ont des compétences. Il y a des médecins qui sont là. Il y a des gens qui ont vraiment des compétences dont on a besoin. Eh bien, on n'est même pas capable, voyez, de trouver des projets communs. Donc, ça veut dire qu'on est, mais vraiment, dans une incurie d'imagination, parce que nos politiques n'ont pas la volonté de les intégrer avec nous. Vous voyez, de leur dire, il manque des médecins, il y a des médecins syriens. On va leur apprendre la langue. Ce que fait Mme Merkel, parce qu'elle a très bien compris qu'avec les entreprises, il y avait un manque. Eh bien, on va les former, etc., etc. C'est-à-dire, ils font... ce sera un plus pour notre économie. Et nous, on leur dit, ça sera un moins. Et en plus, c'est des étrangers. Et c'est des gens qui vont violer vos enfants parce qu'on est en train de faire manipuler tout ça. Donc, voilà, moi, je me dis, il y a une réglementation, il y a la réglementation Dublin, elle n'est pas respectée. Il y a aux frontières, ils veulent créer des gardes-frontières. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'en Grèce, il manque des gens, par exemple, pour regarder les empreintes, pour que ce ne soient pas des gens qui sont fichés. Je comprends qu'il faut une aide supplémentaire, mais quand même, les autres se sont déchargés devant la Grèce et l'Italie. Moi, j'y suis allée pour voir comment ça se passait. Et je me dis, mais c'est... En plus, en Italie, il y a la mafia qui se sert aussi de tous ces gens-là pour se faire du fric sur le dos de l'Europe, puisque l'Europe finançait énormément de moyens. Donc, j'ai envie de dire à ces chefs d'État et de gouvernement, reprenez-vous. Et à un moment, Juncker a dit une parole, il dit, voyez, avant, il y avait des géants politiques. Maintenant, il y a des petits héritiers sans mémoire. Mmh. Eh bien, on est à l'époque des petits héritiers sans mémoire. Parce que ce qu'ils font courir sur l'avenir, ça peut être dramatique pour notre futur.
Sur les préjugés, sur la liaison entre le social, les emplois et les immigrés. Alors d'abord, il y a une étude récente de l'OCDE qui montre que pour l'Europe, 500 millions d'habitants, je le rappelle, il faut un apport de 1,6 million étrangers chaque année pour contrebalancer la perte de population de l'Europe. Bon, donc on est loin des soi-disant invasions. Hein. Et même cette année 2015 et début 2016, où effectivement, compte tenu des circonstances internationales, beaucoup de gens sont venus, ça c'est incontestable, ça ne reste jamais que dans le créneau des 1,6 million qui sont nécessaires démographiquement et économiquement. Sur le plan du travail, ils viennent nous voler notre travail. Ben, il n'y a aucune étude sérieuse qui montre cela. Il y a des études, au contraire, qui montrent que la contribution à l'économie, alors malheureusement à l'économie souterraine, parfois parce qu'on empêche les étrangers en situation irrégulière de travailler, donc on se tire soi-même une balle dans le pied en faisant en sorte que ces personnes travaillent et sans que ça alimente nos services de protection sociale. Bon. Donc l'idée que les immigrés prennent le travail, même s'il y a beaucoup de chômage, mais ce chômage, il vient davantage, comme Michel l'a dit, des politiques d'austérité. Et par contre, démographiquement, sociologiquement, les étrangers qui arrivent, ils prennent quand même majoritairement des emplois dont on a besoin, je vais dire ça comme ça, souplement. Voilà un petit peu la réalité des choses.
Claude, une réaction par rapport à ces propos de Michel ou de Dominique ?
Déjà, oui, il est paradoxal, par exemple, sur le DIWA, que se mette en marche la société civile. Hein, on a fait 3 réunions consécutives. Il y a à peu près 250 personnes qui se sont retrouvées pour accueillir des réfugiés. Je trouve que cette mobilisation, elle était extraordinaire. Hein, et elle a fait aussi le lien avec ce qui s'était passé par le passé. Comme disait Michel, nous sommes un territoire où le DIWA, mais pas seulement, a accueilli des vagues italiennes, bien entendu, espagnoles aussi, mais aussi les pieds noirs. Il y a presque 1 million de personnes qui sont arrivées en 62, hein, et on les a très bien intégrées, même on les a aidées financièrement. Donc la France a quand même cette tradition, cette habitude, et même à certains moments, une façon de faire et une volonté d'intégrer ces populations. Aujourd'hui, c'est un manque de courage politique, comme il a été dit. C'est un manque de cohérence aussi par rapport aux besoins de l'économie aussi. Hein. Donc, quand on parle d'1,6 million de personnes qui seraient nécessaires. Donc, je pense que là, il y a une cassure entre ce que démarche la population. Parce que quand il y a eu cette réunion à Die, les écoles étaient partantes, les centres de formation étaient partants, la radio était partante, enfin, plein d'associations d'accompagnement, comme le Secours populaire, la Corderie, l'écologie au quotidien, étaient là pour accompagner beaucoup de parents d'élèves et des entreprises. L'herbier du DIWA était présent aussi pour dire « Nous, on veut embaucher 2 ou 3 personnes si elles arrivent. » D'ailleurs, ils sont exemplaires en la matière, puisqu'ils ont aussi déjà embauché 2 personnes qui viennent de Roumanie et les forment. Et donc, on est sur un vrai travail de jardinage de nos territoires où ces personnes-là, et les vagues de passé, nous ont bien montré que les Espagnols n'avaient pas pris du travail. Au contraire, ils ont créé une multitude d'entreprises dans le DIWA, particulièrement dans le BTP. On pourrait reprendre les noms sur l'annuaire. Et les Italiens, idem. Aujourd'hui, il y a des grandes entreprises comme... qu'on sait, de BTP aussi, qui sont... Donc, ils ont créé énormément de plus-values d'entreprises et finalement, ils ont redynamisé nos territoires, surtout dans des périodes où le DIWA et la Drôme et d'autres régions rurales étaient en pleine déshérence, voire désertification. Donc, ça peut être une chance inouïe. On a des communes où il n'y a plus personne. Je pense à des communes où les maisons sont à moitié fermées. Je pense, par exemple, à Luc en DIWA. Ben, une où les écoles, les postes, plein de choses sont en train de péricliter, il y aurait peut-être des chances à prendre au détour. Donc je pense que la société civile est prête à faire cette démarche. Hein. C'est peut-être ce territoire parce qu'on a encore la culture de l'altérité, on a encore la culture de l'hospitalité, la volonté politique aussi, hein, parce que les gens du Diwa sont assez formés politiquement. Et donc il y a une vraie cassure avec les choix qui sont faits au niveau de l'État français, puisque nous avons demandé à recevoir et que pour l'instant, ça bloque en préfecture de la Drôme. Donc il y a une vraie césure entre les choix politiques et les choix de société de ce territoire en question. Donc c'est assez intéressant.
Moi, je voudrais reprendre ce propos parce que la CIMAD sur Rhône-Alpes est bien placée pour voir justement l'émergence de toute une série de collectifs. Autant tout à l'heure j'ai dit que les pouvoirs publics et les médias avaient renoncé à leur vocation pédagogique sur ces questions, autant malgré tout ça n'a pas tué les élans de solidarité que l'on peut constater dans la population. Et on voit des groupes, des collectifs de personnes, que ce soit dans le Diwa, que ce soit à Cray, que ce soit dans la vallée de l'Hérieux, que ce soit un peu partout, en fait, on pourrait aider. Et ces personnes-là ont trouvé, à côté, une commune dont le conseil municipal, alors je ne suis pas mandaté pour donner le nom, mais dont le conseil municipal a dit oui, on est d'accord pour accueillir des Syriens ou des Irakiens, on a un logement communal qu'on peut mettre à la disposition, etc. Et ils viennent nous voir en nous disant mais comment on peut faire, on s'est adressé à la préfecture mais on ne voit jamais rien venir. Et effectivement, parmi les 24 000 réfugiés promis par M. Hollande, en fait, presque personne n'est arrivé. Et on décourage les élans de solidarité des gens, et c'est une misère humaine effroyable. Pour les personnes, c'est un manque de chance pour les personnes qui pourraient être accueillies. Et on a en face des Français, ou non Français d'ailleurs, pardon, et nos concitoyens, qui sont prêts à s'investir, à y consacrer du temps, de l'argent, de la mobilisation, et rien ne se passe.
Michel, vous voulez...
Oui, alors moi, dans le prolongement, je vais vous prendre l'exemple de Valence, où on avait dit ça serait bien qu'une ville, parce qu'il y avait plein de villes dans la Drôme qui avaient dit ben, on est prêt à accueillir des réfugiés, etc. Et quand il y a eu un vote au conseil municipal, ça a été négatif. Eh bien, écoutez, j'ai vraiment râlé, là. Parce que Valence a été une ville d'accueil pour les Arméniens. Et je leur ai dit, vous voyez que vous êtes des petits héritiers sans mémoire. Quand les Arméniens sont arrivés, hein, pour fuir le génocide arménien, moi, j'ai beaucoup... Enfin, je suis très sensible à la cause arménienne. Eh bien, là... Valence vous a accueilli, Bourg-les-Valence vous a accueilli, vous avez créé un emploi incroyable, vous avez dynamisé le territoire. Et là, vous êtes au conseil municipal, vous êtes d'origine arménienne, et vous dites non à un vœu d'accueil de familles réfugiées. Je n'avais même pas indiqué le nombre, mais j'avais essayé d'identifier des lieux, parce qu'il y avait des hôtels, vous savez, dans la basse ville, qui auraient pu faire un lieu d'accueil. Et puis même, ça joue après sur la solidarité des gens, parce que c'est des gens, il faut savoir... Quel est leur cursus? Quelle est leur compétence? Comment les intégrer? Vous voyez, essayez... Quand je vous parlais d'imaginaire, on a perdu l'imaginaire d'intégration. Comme si... Je pensais dans la campagne, tu disais, il y a plein de villages qui sont en déshérence, quoi. Il n'y a plus personne. Ben, on peut trouver des projets collectifs. Vous voyez, c'est comme si on n'a pas l'idée de faire travailler des gens ensemble avec les collectivités qui sont, bien sûr, il faut être demandeur, mais on peut faire des tas de choses ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça pitoyable. Alors, c'est vrai que ça a un peu choqué les conseillers municipaux arméniens, mais j'aurais dit, vous voyez, autant il fallait s'abstenir, mais pas dire non, quoi. Pas dire non. Et vous voyez, ces petits héritiers sans mémoire, je trouve qu'on est tous solidaires. Et après de dire... Vous voyez, j'ai visité la Syrie, d'ailleurs, avec des Syriens valentinois. En Syrie, ces gens-là avaient... Vous savez, quand vous avez visité Damas, Alep, Palmyre, même j'étais allée à Deir ez-Zor, où c'était historiquement pour le départ des gens qui sont morts des Arméniens. Et quand vous voyez cette culture-là, si on arrive à obtenir la paix en Syrie, mais ces gens vont retourner. C'est leur histoire, la Syrie. Mais là, ils sont un temps avec nous. Mais partageons avec. Vous voyez, je ne veux pas faire comme si c'est facile. Ce n'est pas facile. Je vous l'accorde. Mais ensemble, on peut trouver des solutions collectives. Mais faisons-le. Et quand je vois que des élus refusent, parce qu'en plus, il y avait le diaconat, là, qui était contre, hein, enfin, l'ancien président, qui dit...
Oui, alors, je tiens à préciser qu'il ne parlait qu'en son nom et que, dans la communauté protestante, beaucoup de personnes se sont émues qu'il ait utilisé abusivement et inconsidérément son ancien titre pour laisser entendre qu'il parlait au nom du diaconat, ce qui était faux. Oui. Et bien des membres de la communauté protestante, dont je fais partie, ne se reconnaissent pas dans cette prise de position qui est à l'antithèse de la solidarité et de l'humanisme.
Ça m'a, oui. Mais vous voyez que c'est important, parce c'est que important. Moi, ça m'avait choqué. J'avais dit, mais enfin bon.
Alors, nous sommes déjà au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un élément important que vous auriez aimé apporter en complément ? Peut-être Claude dans un premier temps et Dominique. Allez, allons-y. Oui, bien sûr.
Donc moi, j'ai deux éléments. Alors, il y en a un qui est d'ordre général. Et quand on parle de la Syrie et de l'Irak, j'aime bien le rappeler, c'est fondamental, c'est qu'il y a 70 ans de paix en Europe. Et je ne sais pas si on pourrait avoir ce type d'émission en Syrie à parler des conditions de travail, de l'égalité homme-femme, de la formation professionnelle en état de guerre. Et 70 ans de paix, et ben rien que ça, au niveau social, c'est extraordinaire, c'est formidable. Et on voit où l'Europe n'est pas vraiment présente en Ukraine. Et comme ça s'est passé en Bosnie-Herzégovine à une certaine période, il y a une carence fondamentale qui fait que quand on n'a pas la paix, on ne peut même pas discuter social, on ne peut même pas discuter environnement. Et là, je pense que ça, c'est sur le compte de l'Europe de le mettre. Et la deuxième chose, on n'en a pas parlé, mais c'est l'Europe aide particulièrement nos agriculteurs. Je sais qu'il y aura une émission PAC, ouais, donc il n'y a pas de souci. Mais beaucoup de nos éleveurs en zone de montagne, et dans le Diois en particulier, vivent grâce aux subventions européennes. Des agriculteurs, par exemple les éleveurs, aujourd'hui le disent, le revendiquent. Aujourd'hui, on touche 60% de notre revenu par le biais de la PAC. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Parce que sinon, on n'aurait peut-être plus d'agriculteurs, on n'aurait plus de petits éleveurs en montagne. Alors, je sais qu'elle est très inégalement répartie, que la critique est très facile. Mais il faut dire aussi qu'heureusement qu'on a eu ces compensations de l'Europe pour maintenir des éleveurs, des petits agriculteurs. Et ça fait partie de la vie sociale de nos territoires, peut-être même du fonds indispensable à la vie du territoire. Si on n'avait plus d'agriculteurs dans le Diois, je ne sais pas où on en serait. Beaucoup de structures, les plantes aromatiques, la cave, ont eu des fonds européens pour, à certains moments, difficiles de passage. Et donc, il y a un vrai travail qui est fait pour d'irrigation de nos territoires social, économique, indispensable. Et je pense au FSE aussi, dont pas mal d'associations ont bénéficié. Donc, il faut être juste. Il y a eu quand même de belles répercussions. On ne sait pas toujours que c'est l'Europe. Souvent, on se dispense de le dire, d'ailleurs, quand on obtient des fonds, on pense que c'est la région. En réalité, la région, c'est un transit, mais c'est souvent des fonds européens, rappelons-le.
Merci pour ces précisions, Claude. Dominique-Antoine ?
À la CIMADE, on est tout particulièrement sensible aux valeurs. Et quand on pense à René Cassin et à sa contribution à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 13 stipule bien que tout homme a le droit de quitter son pays, y compris le sien, et y revenir. Et c'est un principe dans lequel les Européens de l'époque ont agi très concrètement. Et aujourd'hui, on est en train de bafouer ces principes qui sont, j'allais dire, je vais employer un mauvais terme, identitaires des valeurs humanistes de l'Europe. Et on les abandonne. Et quand on abandonne ces valeurs, la catastrophe n'est pas loin, malheureusement.
Alors, Michel, puis je laisserai la
parole. Pour aller dans ce sens-là, l'Europe s'est créée grâce à la migration. Hein ? Il y a toujours eu des migrations. Ce n'est pas nouveau. Hein ? Il y a toujours eu des migrations. Là, il y a un phénomène particulier, c'est qu'elle est localisée parce qu'il y a une déstabilisation dans des États où il n'y a plus de démocratie, où ils sont en guerre. Donc, jouons la richesse et jouons pas l'exclusion. Et en même temps, c'est un appel à tous les chefs de gouvernement et d'État. Il faut que les gens soient sensibles pour leur dire « il faut aller vers l'autre ». C'est par la cohésion de l'Europe qu'on arrivera à supporter, à si vous voulez, essayer de contrer toutes les attaques qui sont faites à l'extérieur. L'Europe, c'est quand même un lieu, comme tu as dit, de paix, de sécurité, de protection. Et c'est avec les autres qu'on le créera. C'est pas contre. La forteresse européenne ne résistera jamais. Quand vous avez des gens qui sont poussés par la guerre, poussés par les attentats, poussés par la famine, ben, ils iront vers l'Europe. Donc c'est à nous aussi à faire en sorte, par la diplomatie européenne, qu'on arrête ces guerres, qu'on aide ces pays-là à se développer, pas, vous voyez, de façon inégalitaire comme ça l'est à l'heure actuelle. Et c'est une stabilité planétaire qu'il faut obtenir. Ce n'est pas l'Europe riche et les autres pauvres. Donc, vous voyez, je trouve que si vraiment il y a un élan à avoir, c'est aller vers l'autre, aller vers la cohésion, aller sur la solidarité. L'histoire nous a montré que plus on est ouvert, bah, plus on crée les conditions de la paix.
Eh bien, merci pour cette très très belle conclusion. Je vous remercie tous. Nous aurons une autre série d'émissions sur l'Europe prochainement qui seront diffusées sur RDI Voix.
Parlons Europe. En partenariat avec Madame Rivasi. Une émission financée par le groupe Les Verts, ALE, Alliance Libre Européenne au Parlement européen.